Alors, nous sommes de retour à Parole à propos et je suis toujours en compagnie de Sylvain Aubé pour discuter de G.K. Chesterton, cet apologète, cet écrivain, donc qui avait un style vraiment particulier de répondre à des arguments. Et ce qu'on a vu donc jusqu'à maintenant, c'est qu'il prend les arguments de ses adversaires et il dit oui, vous avez tout à fait raison. Et il renverse la logique vers laquelle ça devrait aboutir pour finalement l'opposer à celui qui présente l'argument. Il dit, ben, l'argument que vous élevez contre la foi chrétienne, finalement, c'est un argument pour la foi chrétienne et contre vous-même. Et donc, voilà, maintenant, il nous reste deux arguments à voir. Comment est-ce que Chesterton répondait aux opposants à la foi chrétienne?
Oui, donc c'est l'argument selon lequel toute la violence ou la cruauté qu'on a pu voir dans l'histoire, qui ont été liées au christianisme, invaliderait la vérité du christianisme. Puisque le christianisme est une religion, est un message d'amour, de pardon, d'espoir, ce serait intrinsèquement incohérent ou incompatible avec toute la violence et la cruauté qu'on a vue dans l'histoire, comme les guerres de religion, la croisade, l'inquisition, tout ça, de dire que il est impossible qu'une chose bonne, ce que la religion chrétienne prétend être, puisse produire des choses mauvaises comme ce qu'on a vu dans l'histoire.
Donc, si c'était vrai, il pourrait pas en résulter des effets mauvais, comme on en a vu certains. C'est ça
Voilà.
l'argument contre.
C'est ça. Et je crois que c'est peut-être l'argument qui va pas très souvent être utilisé par les philosophes ou les intellectuels, mais c'est un argument qui, j'ai l'impression, est très présent dans l'esprit des gens en
Oui, ben surtout
général.
dans les ceux qu'on appelle les nouveaux athées, qu'on pourrait plutôt qualifier de misothéistes, là, qui disent que l'autre qui est décédé il n'y a pas longtemps, là. J'oublie le nom, là.
Christopher Hitchens.
Ouais, Hitchens qui a écrit un bouquin, là, God is not great, puis qui accuse finalement la religion d'être responsable de tous les maux de la planète.
Oui. Donc voilà. Alors, Chesterton répond à ça. Encore une fois, il y aurait plein de nuances à faire, là, à identifier dans quelle mesure est-ce que vraiment la religion aurait causé ça, ou est-ce que c'était bien souvent un prétexte, si ça n'avait pas été la religion, ça aurait été autre chose, parce que l'homme, de toute façon, a toujours été violent et cruel. Mais bon, encore une fois, selon Chesterton, on concède les faits, on ne fait pas la lutte au niveau des faits. On dit, considérant qu'il y a au moins une part de vérité dans ces faits-là, discutons de ce que les faits en tant que tels impliquent. Et donc, effectivement, un certain nombre de fois dans l'histoire, la foi chrétienne ou la religion en général aura amené les hommes à commettre des actes de violence ou de cruauté. On se pose la question, est-ce que le fait que les gens aient posé des actes mauvais, de violence ou de cruauté, implique que leurs motifs étaient mauvais, que les raisons pour lesquelles ils ont posé ces actes-là étaient mauvais? Et c'est là qu'on réalise que, si oui, on peut trouver plein d'exemples individuels de gens qui ont été vraiment mauvais et cruels, puis sadiques, puis bref, que c'est tout à fait indéfendable à tous les points de vue. Lorsqu'on considère des groupes entiers, des populations entières, qui autrement étaient plutôt décentes d'un point de vue humain, qui avaient un certain sens de l'honneur, qui avaient une certaine compassion, ou une certaine humanité, tout simplement, qu'on les voit soudainement devenir très cruels et très violents, c'est pas parce qu'ils sont soudainement devenus mauvais. C'est pas cohérent, c'est pas plausible comme explication. L'explication plausible, c'est que soudainement, ils ont eu peur. Soudainement, ils ont eu peur de perdre quelque chose de vraiment, vraiment précieux. Donc, c'est soit qu'ils ont eu peur que leur famille se fasse ravager, que leur nation se fasse détruire, que leurs enfants meurent de faim. Les gens, en général, quand ils se sont mis à faire des actes cruels et violents à grande échelle, c'était par peur de perdre quelque chose qui était authentiquement bon, quelque chose qui avait raison de vouloir protéger. Donc, ils se sont peut-être trompés sur le fait que c'était en danger, ils se sont certainement trompés sur la bonne façon de le protéger, mais ils se sont pas trompés sur la volonté de protéger toutes ces choses précieuses que les hommes normalement veulent protéger. Et l'exemple donné par Chesterton, qui est très bon, je crois, c'est toutes les valeurs des Lumières, c'est-à-dire l'égalité, fraternité, justice, dont on discutait depuis un bon moment déjà, depuis la Renaissance, que dans la société européenne en général, il y avait une sorte de popularité généralisée pour ces valeurs-là, que c'est vraiment des belles valeurs, des valeurs nobles, des valeurs pacifiques, et qui pourtant n'ont pu être apportées dans le monde que par des bains de sang, Ben, la Révolution tranquille, la Révolution française, rien à voir. Hein. La Révolution française avec la guillotine qui coupait des milliers de têtes, avec des guerres, avec des répressions, des révolutions violentes, sanglantes. Donc, on a vu plein de violence, plein de cruauté, mais pour des bonnes choses. C'est que les hommes ont voulu faire du bien dans un monde mauvais et que ça a créé un choc et que c'est il faut absolument distinguer. Ça nous, dans le cas de, par exemple, des révolutions françaises et des révolutions démocratiques, ça nous est tout naturel de dire oui, il y a eu de la violence, il y a eu de la cruauté, de la persécution, mais tout ça était pour une bonne fin. Les moyens ont été mauvais, mais les fins étaient bonnes, et ça nous est évident. Mm-hmm. Et je crois que pour les chrétiens, c'est un peu comme ça que nous-mêmes, on va voir justement toutes les mauvais actes qui ont été posés dans l'histoire pour la religion. On va dire oui, les hommes sont des pécheurs, sont mauvais de nature, donc c'est normal qu'ils fassent plein de mauvaises choses en voulant défendre les bonnes choses.
Ouais.
Mais on ne va pas du tout spontanément inférer du fait que les gens font des mauvais actes, que la raison de ces mauvais actes-là était mauvaise aussi.
Mm-hmm. Et c'est une parenthèse, ça fait pas partie de l'argument de Chesterton, mais de Pascal Denot, mais je pense que quand on accuse le christianisme dans l'histoire d'avoir commis de mauvaises choses, je pense que chaque fois où le christianisme a fait du mal, c'est parce qu'il s'est éloigné de son essence, qu'il s'est éloigné de sa racine et que ça n'appartient pas à l'essence du christianisme de commettre de la cruauté et de faire du mal. Contrairement peut-être à d'autres religions qui peuvent exister où il y a un appel à prendre les armes et à la violence, les seules armes que les chrétiens sont appelés à prendre qui sont sommées par le Christ et par ses apôtres, ce sont des armes spirituelles parce que le combat est d'une nature spirituelle. Donc, juste pour répondre personnellement à l'argumentation que le christianisme est violent. S'il l'a été historiquement, c'est simplement parce qu'il a parfois, par moment, délaissé ce qui est sa véritable nature et sa raison d'être.
Oui, en effet, c'est parce qu'à certains points de l'histoire, il y a des chrétiens qui ont été incohérents avec le message chrétien.
Ouais.
Non pas parce que le message chrétien en lui-même porte de la violence, on voit bien que c'est tout le contraire, avec l'attitude du Christ qui... Il priait pour le salut de ses tortionnaires alors qu'il était en train de se faire crucifier. c'est loin d'être un message de violence, d'agressivité.
Tout à fait. Et l'autre argument, tu me disais que toi, c'était pas celui qui t'avait le plus interpellé. Moi, je l'ai bien aimé parce que souvent, c'est ce qu'on entend. On entend dans certains milieux un peu intellectuels qui approchent les religions comme un phénomène social, évolutif. Et donc, on lit l'Ancien Testament, puis on se dit, ben, voyez, là, c'était vraiment très, 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 très primaire comme conception de Dieu, un Dieu qui est là dans un buisson ardent qui brûle. C'était donc un peu grotesque, un peu élémentaire.
Folklorique, voilà.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'était des manifestations très locales de Dieu. Et puis, donc, on associait la divinité à un lieu, à un objet, à un événement. Puis, donc, on retrouve un peu ces éléments-là dans l'Écriture et qui laissent parfois certains lecteurs chrétiens, croyants, perplexes face à ça. Donc, ces manifestations. Mais comment, donc, Chesterton répond à cet argument?
Encore une fois, c'est de se poser la question avec un certain recul. Donc, essayer de sortir de notre mentalité, de notre philosophie occidentale moderne, où on est habitué de philosopher au sujet de Dieu et de l'univers et de l'existence en termes métaphysiques, abstraits, de parler justement d'immanence, de transcendance, d'énergie cosmique et tout ça, pour se dire non, si vraiment des hommes primitifs ont eu un contact avec le divin, ont eu un contact avec des êtres qui viennent d'un autre ordre que la nature telle qu'on la connaît, eh bien, c'est tout à fait normal qu'ils l'aient vécu un peu comme nous le rapporte l'Écriture, à savoir que si Dieu s'est manifesté à certains points dans l'histoire, qu'eux ne se sont pas tout de suite lancés dans des grosses philosophies métaphysiques de tout ce que ça impliquait, vont simplement témoigner tout candidement, un petit peu comme des enfants, de ce qu'ils ont vu, de ce que ça impliquait dans leur vie à eux et de l'impact que ça a eu dans leur spiritualité personnelle. Et donc, effectivement, si l'écriture est vraiment ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire une révélation que Dieu a fait aux hommes dans leur vie, personnellement, concrètement, historiquement, ben, elle nous est rapportée exactement comme elle nous serait rapportée par des hommes primitifs qui l'auraient vécu. Or, qu'à l'inverse, si ça nous était rapporté déjà tout en termes philosophiques abstraits, ben là, on aurait naturellement matière à suspecter que c'est une construction philosophique que certains individus ont faite par eux-mêmes. Mais que, justement, si la Bible n'est pas ça, si l'Écriture n'est pas une construction mentale de certains individus, elle correspond exactement à ce dont on s'attendrait.
Et je trouve que ça rejoint un enseignement biblique qui évolue lui aussi de l'Ancien au Nouveau Testament. La révélation de Dieu, donc, qui est progressive, nous montre comment Dieu, si on veut, s'incarne. Dieu se révèle à l'homme dans son contexte, mais il lui parle dans sa langue, dans des mots qu'il comprend, dans une culture qui signifie quelque chose pour lui. On compare la loi de Moïse à d'autres codes civils de l'époque, on voit qu'il y a quelque chose qui était vraiment incarné dans cette réalité-là. Et l'expression ultime de ce Dieu qui s'incarne, ben, c'est l'incarnation. C'est Dieu qui devient homme, la parole qui est faite chair, celui qui révèle Dieu, le révélateur de Dieu, Dieu lui-même qui vient en personne, devient un homme. Et donc, c'est extrêmement concret. On n'est pas en train de parler dans des termes abstraits de Dieu, mais Dieu qui vient parmi nous, c'est historique et qui vit au milieu. Donc, c'est extraordinaire. C'est un Dieu missionnaire, le Dieu de la Bible. Un Dieu qui veut connaître l'homme et qui veut que l'homme le connaisse et qui se met à son niveau, qui parle son langage. Et c'est ce même Dieu aujourd'hui qui frappe à la porte du cœur des hommes et qui, encore au 21e siècle, veut entrer dans la vie des personnes, de ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est un Dieu concret, c'est pas un concept abstrait et lointain qu'on proclame et qu'on prêche. Ça doit avoir un impact, donc, cet évangile.
Tout à fait. Moi, je retiens juste l'aspect du langage que tu mentionnes, à savoir que très souvent, surtout chez les intellectuels, comme on le mentionnait, quand on considère l'hypothèse de Dieu, que chez les incroyants, ou autant chez les croyants, quand on essaie de réfléchir à Dieu, ils vont parfois avoir le réflexe de se dire, si Dieu existe, il doit être tellement grand, tellement puissant, tellement intelligent, que s'il communique avec l'humanité, il va nous communiquer d'une façon tellement intelligente, tellement raffinée, que seulement les plus éminents professeurs d'université qui pourraient vraiment comprendre ce qu'il nous dit. Ça peut pas être formulé comme ça, mais c'est un peu l'idée derrière ce qu'on imagine, son hypothèse, quand on considère l'hypothèse de Dieu. Alors qu'en fait, si Dieu nous parlait dans toute sa puissance, même les éminents professeurs ne le comprendraient pas. C'est très prétentieux de se dire que Dieu pourrait pas vraiment dépasser les professeurs d'université. Donc, c'est à l'inverse que Dieu descend à notre niveau, comme tu l'expliques, pour qu'on le comprenne. Et s'il descend pour qu'on le comprenne, il descend pour que tout le monde le comprenne, pour qu'il ait un langage simple, un langage humain, un langage concret. Et donc, on ne doit pas s'étonner, on ne doit pas se dire, ben là, Dieu est censé être plus intelligent que ça, Dieu est censé être plus raffiné que ça. Non, justement, pas dans le langage qu'il nous adresse à nous, puisqu'il descend à notre niveau pour que nous, on le comprenne.
Amen. Et tout le monde va y trouver son compte parce que l'érudit comme l'enfant, la parole de Dieu est assez profonde assez simple pour être comprise par tous, mais assez profonde pour qu'on n'arrive pas avec nos sondes humaines à en atteindre le fond. Ben, merci beaucoup, Sylvain. C'est très intéressant donc de faire connaissance avec ce bonhomme, G.K. Chesterton, qui a eu une grande influence sur toi. Merci de l'avoir fait connaître à nos auditeurs.
Ça m'a fait plaisir, Pascal.
On se retrouve une prochaine fois. À bientôt.
À bientôt, au revoir.